suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 2016, celui que je tiens pour le plus grand poète contemporain, Kenneth Goldsmith, a publié aux éditions Jean Boite un petit coffret d'un bleu profond titré « Against Translation », réunissant 8 petits volumes reproduisant chacun dans une langue différente, l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le chinois, le japonais, le russe et l'arabe, le bref essai qu'il a écrit en anglais « Against Translation ». Contre la traduction, tout contre la traduction donc, tout est dit ou presque dans ce geste artistique et politique fort qui rejoint les questions que pose et traite Tiphaine Samoyo dans un récent essai « Traduction et violence ». Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. C'est évidemment toujours de langage, mais de langage pictural dont nous parlerons en seconde partie de l'émission lorsque l'artiste Agnès Turnauer nous rejoindra. Agnès Turnauer, dont l'une des œuvres est reproduite sur la couverture de l'essai de Tiphaine Samoyo. Bonjour Tiphaine Samoyo.
Bonjour Sylvain Moreau.
Vous êtes écrivaine, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous publiez donc aux éditions du Seuil. Vous avez publié avant le confinement, au printemps, ce livre « Traduction et violence » dans la collection « Fiction et compagnie ». Je citais Kenneth Goldsmith et je voudrais simplement lire le début de son essai dans sa version française, telle qu'il figure dans ce coffret. « La traduction est le geste humaniste ultime, poli et raisonnable. C'est un médiateur excessivement prudent. En demandant constamment la permission, elle mendie la compréhension et l'amitié. Elle est optimiste mais provisoire, plaçant tous ses espoirs en une issue harmonieuse. Au final, elle échoue toujours puisque le discours qu'elle avance est inévitablement hors registre. La traduction est une approximation du discours et en étant approximative, elle produit un nouveau discours. Le déplacement est impoli et insistant, un casseur d'ambiance vulgaire qui n'a pas été invité se conduit mal et refuse de quitter les lieux. Le déplacement se révèle dans la dissociation, dans toutes les situations qu'il rencontre. Le déplacement est la nouvelle traduction, affirme Kenneth Goldsmith. J'ai trouvé que ça faisait véritablement écho à votre propos qui part de cette idée, de ce lieu commun au fond que la traduction c'est formidable, on est content, on vit dans un pays, la rentrée littéraire nous en apporte une nouvelle preuve avec la littérature étrangère, un pays qui traduit, qui travaille massivement, les librairies sont pleines de romans étrangers et donc c'est le signe que notre civilisation progresse au fond, Tiphaine Samoyo.
Oui, alors c'est sûr que j'ai voulu aller contre une idée très répandue, hein, qui est que la traduction est un lieu positif, presque irénique, hein, de rencontre avec l'autre, de dialogue avec l'étranger, de respect de l'autre. Alors dans la citation que vous venez de citer, que vous venez de donner de Kenneth Goldsmith, c'est intéressant parce qu'il oppose la traduction comme politesse. Et effectivement, les métaphores de l'hospitalité, elles sont très très souvent utilisées pour parler de la traduction, au déplacement qui serait provocation, impolitesse. Bon, moi, j'irai pas jusque-là parce que c'est souvent le déplacement qui implique la traduction, et c'est parce qu'on s'est déplacé qu'on a traduit et qu'on s'est approprié aussi. Hein. Donc moi, je reviens d'abord sur quelque chose d'assez simple, qui est que toutes les violences historiques se sont accompagnées de traduction, et que la traduction est un outil de l'oppression. C'est un outil de la violence historique et donc je rappelle un certain nombre de faits bon, que l'on connaît mais qui impliquent d'emblée...
Non mais rappelez-les-nous, Cortés par exemple.
Bah oui, Cortés, c'est une histoire de traduction. Cortés, il a compris... Hein, qu'il fallait traduire. Il s'est très très vite doté donc d'interprètes qui étaient capables de comprendre les langues mayas entre elles, de les traduire entre elles, mais de comprendre aussi l'espagnol. Et voilà, il y a des figures très connues hein, que je cite, la Malinche bien sûr la plus connue, mais enfin Felipillo aussi, qui sont des figures de traducteurs qui ont été vus à la fois comme des médiateurs, mais aussi comme des traîtres. et qui sont des figures d'ailleurs très complexes pour l'histoire de la Mésoamérique.
Oui, toujours ambivalentes.
Toujours ambivalentes, qui peuvent être récupérées positivement parfois, mais qui sont aussi des figures de traîtrise. Comme je cite aussi le cas des fixeurs, hein, ces figures, ces aides, ces médiateurs dans toutes les zones de conflit qui aident les journalistes et qui souvent sont vus comme dangereux des deux côtés parce que ils ont des informations des deux côtés, donc ils sont toujours dans cette ambivalence. Mais alors c'est aussi ce que je dis, l'intérêt de la traduction, c'est-à-dire que tout ce que cite ironiquement Goldsmith en mauvaise part sur la traduction, hein, le fait qu'elle est imparfaite, le fait qu'elle est un peu en retrait, c'est aussi sa chance. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu d'autorité moindre où on peut peut-être réparer quelque chose après que cela a été séparé par la traduction. C'est-à-dire que moi, je commence par rappeler ces violences historiques, mais je dis aussi qu'il y a une violence interne à la traduction dans la déformation qu'elle fait d'un corps. Hein. Si on estime que le discours, la parole, un texte, c'est lié à une énonciation, à un corps, bon, bah, cette la traduction est toujours une opération violente par rapport à ce corps.
Avant de revenir sur ces violences internes, restons un instant sur l'aspect historique, parce que vous citiez l'Amérique conquise par les Espagnols, mais il est question aussi de l'Algérie dans quelques pages de votre livre et du rapport compliqué de la langue française sur ce territoire et qui perdure d'ailleurs, que vous faites contraster s'agissant de la littérature contemporaine avec d'autres pays limitrophes, notamment le Maroc où les choses sont différentes, où les politiques linguistiques ont été différentes. Vous notez aussi ce constat qu'on vous rapporte que finalement les collections de littérature traduite de l'arabe en France, dont les grandes maisons d'édition qui s'y intéressent, nous proposent davantage des livres issus du Machrek que des livres issus du Maghreb.
Oui, c'est-à-dire que ces violences, on le sait vraiment bien aujourd'hui, c'est-à-dire que ces violences coloniales, ces violences appropriatives qui ont utilisé la traduction pour s'installer, elles durent, hein, et elles ont une durée beaucoup plus longue que la fin effective ou historiquement datée de la colonisation. Et on sait qu'il y a une alternance entre des politiques interdisant le français ou au contraire le valorisant, c'est jamais, il n'y a jamais de consensus hein, sur ces questions. Mais elle perdure aussi par le fait qu'on continue d'imposer, parce que économiquement, parce que c'est la loi du marché, c'est-à-dire qu'on continue à imposer des textes là-bas en accueillant très peu. C'est-à-dire que la traduction, il y a beaucoup de traductions vers l'arabe et beaucoup moins de traductions de l'arabe. Et donc tout s'en ressent, c'est-à-dire qu'on a, il y a beaucoup, par exemple, de maisons d'édition marocaines ou algériennes qui publient des livres en français qui ne sont pas diffusés en France. Et donc ça, pour moi, c'est une manière dont on continue à faire peser cette violence oppressive par la traduction, où la traduction joue un rôle. Disons, elle est toujours un instrument de la domination.
Alors ce livre, vous l'avez écrit depuis la France, qui est une situation historique et géographique particulière. Probablement, vous n'auriez pas écrit le même livre si vous aviez été néerlandaise. Je pense à ça parce que ça me frappe à chaque fois que je vais à Amsterdam d'être face à des vitrines de librairies dans lesquelles on voit des ouvrages, évidemment en néerlandais, en flamand, mais aussi en anglais, en allemand, en français, parfois même en espagnol. Alors que à Paris, on voit de la littérature étrangère, on en voit beaucoup, mais toujours traduite en français. De la même façon que la chaîne de télévision la plus culturelle qu'il soit, Arte, propose en doublage les films d'art et d'essai en France, alors que dans les petits pays, on a recours aux sous-titres tout le temps. Et que du coup, le rapport à la langue n'est pas le même. Il y a quelque chose de spécifiquement français aussi, qui est lié probablement à cette puissance de la langue française.
Très certainement. Si je l'avais écrit aux Pays-Bas, je l'aurais probablement écrit en anglais, ce livre. Et bon, ça aurait été sans doute un tout autre contenu, même s'il sera probablement traduit en anglais, ainsi qu'en arabe, parce que précisément, j'ai eu des échos de ce livre par des Marocains arabophones et francophones, hein, et qui pensent que c'est un discours qui est important aussi à tenir dans d'autres pays que la France. Simplement, en effet, je l'ai écrit en français depuis une langue qui a été à un moment donné une langue dominante, qui ne l'est plus, mais qui nous autorise encore à penser dans cette langue, ce qui est une chance. Mais ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que la violence de la traduction, c'est la violence aussi de l'extension de la traduction. C'est pour ça que je suis intéressée par des titres provocateurs comme « Contre la traduction »,« Against translation », j'en cite d'autres, hein. Il y a d'autres textes qui portent ce titre. Parce que la traduction généralisée, c'est une menace, pas simplement pour ma langue, mais pour les langues de chacun et de chacune. C'est plus on traduit, plus on a besoin d'aller vite. On peut pas imaginer l'augmentation des flux de traduction chaque jour. C'est des milliards d'items qui sont traduits de plus en plus rapidement, évidemment de manière automatisée. Et cette traduction automatique, si elle peut être une chance dans certains cas, une facilité, elle peut faciliter les échanges, elle est surtout là pour étendre encore plus le commerce mondial. C'est vraiment entièrement inscrit dans la logique capitaliste de marché.
Le commerce et la surveillance, parce que vous dites à quel point aussi l'après 11 septembre a été marqué par un besoin de traduction automatique de millions de pages pour procéder à du renseignement.
Absolument.
Extensif, oui. En utilisant un logiciel qui s'appelle Diplomate.
Oui, c'est absolument fou. Donc c'est en effet pour la surveillance et le commerce mondial, mais cela se fait au prix de la disparition d'une quantité très impressionnante de langues. Hein. C'est-à-dire que les langues, ça disparaît aussi vite que les oiseaux. Parce que on ne peut véritablement améliorer ces outils de traduction automatique qu'en injectant dans les machines des quantités de corpus de traduction. Et donc, plus les langues sont souvent traduites entre elles, plus ces corpus existent et plus
meilleures deviennent
les machines. Mais pour des petites langues, si vous imaginez par exemple entre une langue indienne comme le Kannada et puis le tibétain, il y a très peu de textes qui sont intertraduits. Là, vous pouvez pas avoir de traduction automatique et donc à terme, cela implique la mort de ces langues. Même si certaines d'entre elles sont parlées par 50 millions de personnes.
Vous dites, je crois, il y a de l'ordre de 6000 paires de langues. À travers aujourd'hui, quoi,
oui.
Langue parlée.
Beaucoup plus, ça c'est même beaucoup plus, mais 6000 qui sont un petit peu déjà un petit peu répertoriés, mais si on compte tout l'ensemble des langues, c'est très vite, beaucoup plus.
Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Donc effectivement, ces progrès de la technique des machines à traduire, qui d'ailleurs obéissent à différentes logiques, sont très spectaculaires et vont poser des questions sur la manière dont évolue la place des traducteurs, la place des humains, tout simplement, dans ce processus, qui en a encore une, mais qui se trouve bouleversée assez rapidement.
Aujourd'hui, on voit dans les écoles de traducteurs, les écoles de traduction, ils sont autant formés à ce qu'on appelle la post-édition qu'à la traduction. Et qu'est-ce que c'est la post-édition ? C'est le nom qu'on donne à la révision des traductions. Donc, c'est ça qu'on enseigne essentiellement dans toutes les grandes institutions où on traduit beaucoup, comme l'ONU, l'Europe, etc. Les traducteurs, en fait, sont des post-éditeurs, c'est-à-dire qu'ils relisent les machines.
Alors là, on en vient... À travers cette situation nouvelle, c'est une manière aussi d'aborder la question de ces tensions internes dont vous parliez, parce que ce que viennent corriger peut-être les humains qui passent après les machines, c'est justement ces points de blocage, ces nœuds, ces choses qui doivent être tranchées à travers des interprétations que les machines ne sont pas encore capables d'opérer.
Oui, alors les machines sont quand même capables de plus de choses que simplement produire de l'équivalence. Elles sont capables de, par moment, de réussir de la traduction de la polysémie de manière juste. Et c'est pas juste un hasard. C'est ça qui est très compliqué avec l'intelligence artificielle et qui est très intéressant aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'il s'agit pas évidemment de diaboliser la traduction automatique. Pour moi, il s'agit de montrer les limites de cela et également aussi de m'emporter contre un autre cliché. cliché, outre que la traduction serait le lieu de l'hospitalité seulement, je m'emporte aussi contre un autre cliché qui est que la traduction serait une langue. En fait, la traduction n'est pas une langue. La traduction, elle est un opérateur de rencontre entre les langues, de passage, de frottement. Elle est là, en effet, pour par moment arraser les différences, mais aussi peut-être pour les mettre en évidence, dans certains cas d'attention particulière à la traduction. Et elle n'est pas une langue, et par moment, elle menace même l'existence des langues, parce que tout le monde a peut-être eu cette expérience du temps où on voyageait encore, de se retrouver dans un endroit où dont on ne parle pas la langue, où au lieu de s'exprimer, on note sur son téléphone portable le renseignement que l'on veut et c'est immédiatement transcrit dans l'autre langue. Et là, c'est vraiment la rencontre vraiment limitée à son strict minimum.
Ça marche avec la voix maintenant, ce genre de requête.
Oui, en plus ça marche avec la voix. Donc là, on a une limitation de la rencontre par la traduction, parce qu'on n'a même plus cette ressource d'apprendre à la fin de son petit guide de voyage les quatre mots qui permettent justement d'être poli.
Alors, si on en vient, donc la traduction n'est pas une troisième langue, elle est toujours la mise en tension de deux langues, une langue de départ, une langue d'arrivée, et dans cette relation, le traducteur ou la traductrice travaille et éprouve physiquement, je dirais, cette violence dont vous parlez.
Oui, d'autant plus qu'elle est rarement en confrontation seulement entre deux langues. Elle est souvent en confrontation entre plusieurs langues parce que la langue vers laquelle on traduit, par exemple, si c'est sa langue maternelle, on ne traduira pas dans la langue qui est notre langue maternelle. On traduira aussi avec une langue apprise, on traduira avec des normes, on traduira avec les autres langues étrangères que l'on connaît. Donc il y a un conflit de langue en soi lorsqu'on traduit. Et puis il y a une difficulté, puisque précisément la traduction, c'est l'inverse de l'équivalence. Et c'est là où la traduction automatique nous trompe d'une certaine manière, enfin en tout cas arase cette différence, c'est que elle parie sur l'équivalence. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Des dictionnaires bilingues de langue parient aussi sur l'équivalence. Des dictionnaires de synonymes parient sur l'équivalence. Mais c'est faire beaucoup de mal à la langue. Hein. Tous les écrivains le savent, que de penser qu'il y a de la synonymie, par exemple.
Le signe égal n'a pas lieu d'être. En fait.
Non, le signe égal n'a pas lieu d'être. Et dans cette conscience, il y a quelque chose d'une lutte, hein, dans l'impossibilité de produire de manière transparente une équivalence. Mais dans cette lutte, quelque chose a lieu. Et là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Et comme on le sait, la rencontre, elle n'est pas toujours pacifique.
Alors, il y a une autre question, un autre cliché, je ne sais pas, mais une autre idée reçue sur laquelle vous revenez, qui est qu'il faudrait, en fait, distinguer entre les bonnes et les mauvaises traductions pour véritablement comprendre que les bonnes traductions, ce serait par exemple celles qu'on n'a jamais besoin de refaire, qui deviennent, à proprement parler, des œuvres. Ça, c'est Méchonic, je crois, qui défendait cette idée-là, Henri Méchonic. En fait, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée d'une facilité à distinguer entre les bonnes et les mauvaises traductions et à régler le problème par là, en tout cas.
En effet, on pourrait régler le problème par là, en disant que les traductions qui s'occupent ou qui s'intéressent à la différence plus qu'à l'équivalence sont des meilleures traductions que celles qui posent que tout est équivalent, ou que les traductions, qu'il y a des traductions appropriatives et d'autres qui le seraient moins, ce qui est sans doute vrai, hein, je ne m'élève pas du tout contre ces idées, mais en revanche, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes traductions, qu'il y ait de traductions qu'on ne doive pas refaire, parce que on traduit toujours pour quelqu'un. Et donc, dans un horizon d'attente, pour un temps, et dans un certain état de la langue, avec une certaine projection de l'idée qu'on se fait de la langue, et donc, comme ces choses changent, les traductions doivent être refaites. Et je pense que ça, c'est précisément une chance pour la traduction, parce que pour le moment, on est en train de dire tout ce contre quoi voilà, mais je défends aussi une idée dans ce livre positive, qui est non seulement que la traduction peut réparer aussi des violences qu'elle a instituées ou qu'elle a contribué à instituer, mais que elle peut aussi être pensée en termes politiques. et justement comme un lieu d'imperfection, comme quelque chose qui est toujours à travailler, toujours à refaire. Et que cette imperfection, le fait qu'il n'y ait pas de bonne traduction, c'est aussi la chance de la traduction. Comme lieu de pensée, mais aussi sans doute comme pratique. C'est-à-dire que dans une société très sacralisée, qui sacralise beaucoup l'écrit comme la nôtre, qui donne beaucoup d'autorité à l'écrit, la traduction, elle retrouve quelque chose qui est de l'ordre de l'oral. Parce que comme un texte oral, comme une loi orale, comme un récit oral, elle pose que les choses peuvent se modifier dans le temps. Et du coup, il y a une fragilité de l'oral que je trouve forte dans l'opération de traduction. Et que,
traduire, c'est pas gravé dans le marbre, quoi.
C'est même l'inverse, c'est que ce qui a été gravé dans le marbre, tout d'un coup, sort du marbre.
Alors, vous parlez aussi de la façon dont les écrivains se sont retrouvés en situation de traduire, beaucoup, beaucoup d'entre eux, et qu'elle... rôle, quelle fonction ça a pu jouer, quelle réflexion ça les a amenés à avoir sur l'écriture de manière générale. Alors, évidemment, en revenant sur des exemples célèbres comme Baudelaire, mais comment vous avez, parce que je le disais au début de l'émission, vous êtes aussi écrivaine, comment vous avez fait cette expérience de traduction? Vous y revenez à la fin du livre à propos de la traduction collective du Ulysse de Joyce à laquelle vous avez participé, en vous attaquant à un morceau célèbre, important à la fin du roman, qui est ce monologue de Molly Bloom. Quel regard rétrospectif vous portez sur cette expérience-là ?
Alors, d'abord, je voudrais rappeler que pour les écrivains, et ça c'est dans tous les lieux du monde, dans toutes les cultures, et depuis très longtemps, il y a deux gagne-pains possibles, qui sont la traduction ou l'enseignement. Et donc, c'est aussi pour des raisons socio-économiques que beaucoup d'écrivains sont des traducteurs. Après, ils donnent une sorte de symbole fort à cette activité de traduction, de transmission, en montrant comment ça les déplace dans la langue. Mais il me semble que c'est aussi une justification a posteriori. Il y a évidemment des écrivains, surtout aujourd'hui, où beaucoup d'écrivains écrivent depuis une situation absolument plurilingue et travaillent leurs œuvres avec la traduction, avec l'autotraduction. Donc là, il y a une vraie poétique de la traduction. Mais très souvent, il me semble que c'est aussi une justification a posteriori de quelque chose qui est un gagne-pain. Baudelaire, c'est le seul argent qu'il a gagné dans sa vie, c'est en traduisant. Donc c'est important de le rappeler. Qu'il y ait que dans ce déplacement de traduire avec d'autres, il y ait à la fois une sorte de connaissance profonde d'un autre écrivain. Bon, ça c'est certain, parce que la traduction c'est une lecture de près, une lecture ralentie qui permet une connaissance inouïe d'un texte ou d'un auteur. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une expérience de traduire Joyce en effet fascinante. Je pense que c'est une grande chance de mon existence d'avoir fait ce déplacement, qui est un double déplacement, disons, dans la langue, dans une langue étrangère, mais aussi dans une langue doublement étrangère, puisque la langue de Joyce, ça n'est pas un anglais standard, celui que j'avais appris à l'école. Et donc, c'est un déplacement aussi dans une singularité absolue. Et surtout, vous faisiez allusion au monologue de Molly Bloom. Dans le monologue de Molly Bloom, c'est vraiment un texte où... pour peut-être la première fois et peut-être une des seules fois dans l'histoire de la littérature, une femme est parfaitement autonome dans son langage. Et ça, c'est une expérience encore plus folle, je dirais. Après, c'est même plus simplement une expérience de langue étrangère. C'est une expérience, voilà, cette autonomie absolue, de cette liberté qui n'avait jamais été écrite et peut-être même pensée. Donc ça, je reviens sur cette expérience. Que ça ait modifié quoi que ce soit, sans doute, mais je pourrais pas le mesurer de manière tangible.
Ça a sans doute été aussi une forme d'expérience d'insatisfaction, parce que je pense que cette insatisfaction, cette chose qu'on ne peut pas résoudre, qu'il faut toujours remettre sur le métier dont vous parliez, qui est aussi un certain rapport politique au monde, qui consiste à reconnaître cette agonistique dont vous parlez.
Oui, alors non, j'ai pas du tout eu cette insatisfaction. Ça peut paraître immodeste de dire ça, mais en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je sais très bien que le texte sera retraduit. Et il faudra qu'il le reçoive, et il le soit. J'appelle toutes les traductrices ou tous les traducteurs à refaire le monologue de Elodie Blum, à connaître la chance que j'ai eue. Mais en revanche, j'étais incroyablement satisfaite. C'est-à-dire que c'était une expérience telle que j'aurais rien voulu y changer. Et il est certain que quand on traduit, c'est ça le problème, c'est que on sait très bien que le lendemain ou l'une est différemment, on traduira pas une expression de la même manière. Mais c'est pareil pour l'écriture. Mais néanmoins, c'est une expérience globale, et cette expérience globale, pour moi, elle était tellement forte que non, j'ai pas ressenti d'insatisfaction.
Bon, je voulais revenir quand même sur cette idée d'agonistique sur laquelle vous vous arrêtez, dont on n'a pas encore parlé, qui fait partie de cette dimension politique dont vous parlez. Vous faites référence à Chantal Mouffe notamment.
Oui, alors Chantal Mouffe, je lui emprunte cette notion d'agonisme, justement, puisqu'elle oppose à l'antagonisme, qui serait la guerre entre ennemis, alors que l'agonisme, c'est la relation entre adversaires, et c'est pas du tout la même chose. Et elle dénonce des sociétés contemporaines qui veulent être absolument des sociétés de dialogue et de consensus. Et c'est pas étonnant si, dans ce cadre, on pense la traduction comme un lieu de consensus.
En gros, c'est les services de traduction de l'Union européenne de Bruxelles finalement, exemplaire, symptomatique de cette idée.
Bien sûr, mais donc elle travaille sur le politique en disant on oublie que toute décision, tout ordre est toujours pris par l'exclusion d'autres possibilités. Et on l'impose en disant c'est ce qu'on a choisi, c'est le mieux, mais en oubliant qu'il y a eu qu'il y avait d'autres choix possibles. Réveiller cet agonisme entre les différents choix, accepter donc qu'il y ait conflit, qu'il y ait conflit de langage, qu'il y ait conflit de position, qu'il y ait conflit d'opposition. Ce serait beaucoup plus sain pour une démocratie que de se fonder sur l'illusion du consensus. Et la traduction, c'est exactement un lieu pour penser ça, parce que on peut effectivement le penser comme simplement un espace de dialogue, mais si on réveille qu'il y a eu conflit, alors on sait que ce dialogue, il est pas si pacifié que ça, et on s'oblige à prendre en compte de manière plus efficace les conflits, parce qu'il y en a, on le sait, je veux dire, on le voit aussi aujourd'hui, c'est-à-dire à force de dire que personne n'est raciste, par exemple, on oublie de traiter vraiment le problème, et il y en a un. On pourrait prendre d'autres exemples, mais je dis celui-là qui me vient.
De langage, de conflit de langage, il sera question toujours dans la deuxième partie de l'émission avec l'artiste Agnès Turnauer qui nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album à venir de Sufjan Stevens.
I know. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Traduction et violence, c'est le titre de l'essai de Tiphaine Samoyo. Nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, un essai sur la couverture duquel figure un tableau. Je vais le décrire, un rectangle bleu, un rectangle rouge-orangé, et puis un mot à cheval sur ces deux rectangles tout en haut, calé tout en haut. Le mot border, frontière, donc, mot qu'on a utilisé avec Tiphaine Samoyo. Cette œuvre, vous en êtes l'auteur, Agnès Turnauer. Vous savez pourquoi elle se retrouve sur la couverture de cet essai ?
J'ai reçu un mail un jour de Tiphaine suite à l'envoi du carton d'invitation pour cette exposition à Bruxelles où figurait ce tableau. Et Tiphaine m'a dit il faut que ce tableau soit en couverture de mon livre qui va sortir bientôt. C'était une évidence. Et réciproquement, quand j'ai lu le livre et que je suis tombée sur cette phrase qui dit « La langue vers laquelle on va n'est pas habitée de la même manière que celle de laquelle on part », je me suis dit que c'était le tableau. Et avec Tiphaine, on a cette relation de travail un peu de réciprocité dans les formes, presque de solarisation entre l'écriture et la peinture, comme si on partait du même endroit et pour l'une avec les mots et l'autre avec les formes.
Alors, il faut dire que vous aviez eu l'occasion de travailler ensemble l'une et l'autre, et qu'en plus, Agnès Turnauer, vous êtes peintre, mais vous interrogez aussi beaucoup sur le langage, et les mots sont très présents dans votre travail artistique.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que à la base, pour moi, une œuvre, c'est une langue, en fait. C'est un univers, c'est un monde dans lequel on parle une langue. Que chaque artiste qui crée une cosmogonie à un moment donné donne une langue à entendre, et que j'ai à un moment formalisé cette question du langage et de la parcourabilité de ce langage au travers des formes avec une œuvre qui s'appelle Matrice et qui offre à voir ou à expérimenter selon son échelle, parce qu'elle existe à différentes échelles, des moules de lettres. Donc le langage devient vraiment un espace à l'intérieur duquel on va faire circuler son regard ou permettre à son corps de déambuler, et qui vient figurer cette façon d'entrer en contact avec une œuvre d'art qui est un monde et que chacun lit à sa façon. Et donc il y a cette ouverture, cette vulnérabilité de l'œuvre qui se donne à lire différemment par chacun d'entre nous. Donc il y a ce rapport au langage qui est toujours présent.
Mais est-ce que se pose du coup la question de la traduction aussi, traduction de ce langage-là dans d'autres langages, qu'ils soient d'autres langages artistiques ou d'autres langages littéraires ?
Oui, déjà à l'intérieur d'une œuvre, comme je le disais, moi je trouve particulièrement intéressant quand un artiste peut traiter de la même question en lui donnant différentes formes. J'ai toujours été, quand je parle d'une œuvre monde, je parle des œuvres. Là, j'ai donc beaucoup travaillé sur Monet parce que j'ai ce projet pour l'Orangerie. Monet a vraiment une langue. Il traite de la question, de la figure, de l'abstraction, de tas de façons différentes. Et nous, en tant que regardeurs, on a chaque fois un travail de. On traduit ce qu'on voit chacun pour nous-mêmes. On peut arriver devant une œuvre en se disant c'est du chinois, une œuvre plastique, je n'y comprends rien. Donc il y a vraiment un rapport d'investissement des formes qui va nous permettre d'en recueillir un sens et des sensations.
Tiphaine Samoyo, vous aviez travaillé avec Agnès Turnauer à propos de son travail lors d'une exposition à Bruxelles à la Fondation Thalie, où on retrouve ses matrices, où on retrouve ses lettres. Ces lettres sculptures.
Oui, je trouvais magnifique de cette proposition de nous mettre véritablement, littéralement dans le langage, le corps dans le langage, le corps dans le A, dans le B, dans le C. Et ça m'a fait penser à ces abécédaires qu'on a quand on est enfant et où des quantités d'animaux se promènent autour des lettres, et animaux dont les voilà, dont les noms commencent par la lettre qui est l'objet de la page. Et je m'étais rendu compte d'une histoire invraisemblable et qui avait beaucoup amusé Vania Stornauer quand je l'avais rencontrée. C'est que parfois ces abécédaires sont traduits et que on se retrouve.
Ça correspond pas.
Et ça correspond pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un dessin de singe pour le Z ou disons pour le A, puisque le singe c'est ape en anglais ou affe en allemand, et puis que voilà, et donc en français ce sera A comme antilope, on aura un dessin de singe, et bon, c'était dans des cadres de où il y a beaucoup d'animaux, mais il y avait quand même cette absurdité. Et donc j'ai eu l'idée de broder autour de ce problème de traduction, et qu'on a intitulé ce livre A comme beau A, voilà. Mais je n'ai pas trouvé d'exemple où le A correspond à un beau A réellement, mais bon, disons que ça faisait quelque chose d'étonnant. Mais sur la couverture du livre, effectivement, ça m'a énormément frappé. Alors c'est beaucoup moins beau qu'en réalité, parce qu'il s'agit de grands panneaux qui sont vraiment coupés. En leur centre.
Sur une toile, oui.
Non, c'est sur, il y a deux toiles, et un espace entre les deux. Donc, la frontière est matérialisée sur l'œuvre. Mais ce qui me plaisait aussi, c'est qu'évidemment, on lit border, puisqu'il y a cette frontière qui coupe le bore et le der. Mais c'est aussi, en français, bordé. Et donc, il y avait à la fois, la violence de la coupure, de la frontière, ou tout ce qui se passe, à l'antre, ou au seuil, ou à l'entre-deux. Mais il y avait aussi le côté rassurant de bordé par le langage, par l'art, la violence dont je parlais.
Agnès Stornauer, vous citiez juste à l'instant ce travail toujours autour de matrice, mais différent de celle-là pour l'orangerie qu'on va pouvoir voir bientôt vers la fin du mois d'octobre. De quoi s'agit-il ? Donc c'est en écho à Monet, à cette langue de Monet dont vous parliez.
C'est une commande de Cécile Debré, la directrice de l'orangerie, qui m'a demandé de travailler par rapport au nymphéa et à ses, en considérant que mon travail, mes matrices assises, donc celles qui ont un rapport au corps, qui sont à l'échelle de 45 cm, donc on peut vraiment s'asseoir et se nicher dedans, avait un écho très fort avec l'œuvre de Monet et avec les nymphéas en particulier, puisque Monet considérait que cette façon de peindre les nymphéas et de créer ce dispositif circulaire permettait aux visiteurs d'être dans une immersion totale dans la picturalité, dans son rythme, dans sa scansion, dans sa chromie, etc. Et les matrices permettent d'être, enfin, offrent cette immersion dans le langage, en fait. Et du coup, j'ai travaillé sur des mots possibles pour cet investissement et ce travail avec les nymphéas. On a choisi le mot chromatique, l'adjectif chromatique au pluriel. Donc, l'œuvre s'appelle les matrices chromatiques. Elles sont destinées au musée de l'orangerie et elles vont être installées dans tout le parcours, enfin dans toute l'architecture, comme des nymphéas de langage. C'est Cécile qui appelle ça comme ça. Et elles vont entrer en dialogue avec les différentes œuvres, que ce soit les nymphéas ou dans la grande galerie des chefs-d'œuvre en bas, il y a des Picasso, Matisse, Dorin. Magnifique, et elles vont interroger ce rapport qu'on a à la lecture de l'œuvre, comment on se l'approprie, les sens qu'on y trouve, voilà.
On peut presque parler de traduction, enfin, je ne sais pas quel est le rapport entre... Oui, vous diriez ça, c'est une traduction de Monet ?
Mais en tout cas, il y a cette question de l'œuvre qui est avec laquelle on entre en relation, et on met en relation notre ouverture et l'ouverture de l'œuvre. Moi, je trouve qu'il y a ce qui est intéressant dans les œuvres, c'est aussi leur perméabilité, leur vulnérabilité. Donc, les matrices et leur ouverture viennent interroger effectivement notre perception. Et il y a forcément, de toute façon, il y a une traduction. Duchamp disait, c'est le regardeur qui fait le tableau. Moi, je pense que c'est aussi le tableau qui fait le regardeur. Et donc, il y a ce dialogue où on confronte notre monde et notre espace de représentation avec celui que l'œuvre nous propose.
Tiphaine Samoyo, il y a un autre type de relation. Je ne sais pas si on peut le rapprocher de la relation qui existe entre les deux langues lorsqu'on traduit, mais c'est la relation entre texte et image dans laquelle vous vous êtes trouvé quand vous écrivez sur un travail plastique, en fait, ou quand on choisit tout simplement d'associer une image à un texte.
Oui, alors moi je vois moins ça comme de la traduction que comme des correspondances hein, au sens baudelairien, comme des jeux aussi de temps. Alors ça c'est proche de la traduction parce que c'est vrai que avec l'expérience de la traduction on fait correspondre des espaces et des temps où on fait se rencontrer des espaces et des temps hétérogènes. Donc là par rapport à la description que vient de donner Agnès de son œuvre à l'Orangerie, il y a vraiment cela, c'est-à-dire que on est aussi on fait venir à soi le temps des nymphéas vers l'œuvre et inversement, ce temps contemporain de l'œuvre actuelle va forcément redéfinir à la fois l'espace et le temps de l'œuvre de Monet. Donc ou alors sinon c'est raté. Mais si ça se passe bien, si ce jeu de correspondance se passe bien, c'est ça que cela implique. Oui, c'est plus qu'une actualisation, c'est quelque chose où les deux temps ensemble sont présents. Donc c'est presque plus comme de la mémoire involontaire que de l'actualisation.
Une forme de synchronisation, Agnès Turnauer.
Oui, c'est tout à fait le souhait d'ailleurs de Cécile Debré, c'était de rendre contemporain, de convoquer le contemporain qui est toujours présent dans les œuvres qu'on regarde en les mettant en dialogue avec l'expérience de chacun aujourd'hui.
Alors, concrètement, elles sont en train d'être produites, ces sculptures. Elles sont matériellement, de quoi s'agit-il et...
Alors, c'est de la chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est la façon dont on construit un patron sur une feuille de métal, là en l'occurrence de l'aluminium. Donc, on voit effectivement comment dans une plaque, on va venir imposer tous ces morceaux de vêtements presque, qui vont être découpés, cintrés, ensuite ils sont soudés. Et ils sont sur une structure métallique qui les tient. Et après, on fait tout un travail de brossage, parce que ce qui était important pour moi, c'est qu'on retrouve une écriture sur la peau des formes, qui est aussi une écriture. Donc il y a un brossage qui vient faire des moirages, des rythmes, presque des couleurs par moment. Et voilà. Et donc chaque lettre est composée, chaque espace de lettre est composé des différents morceaux qu'il aborde, pour revenir au mot bordé.
Ces matrices chromatiques, on pourra donc les découvrir à partir du 20 octobre au musée de l'Orangerie à Paris. Je mettrai un lien sur la page de l'émission et puis évidemment un lien aussi vers la référence bibliographique du livre de Tiphaine Samoyau, Traduction et violence, qui paraît au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Merci. C'est la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Fabien Capel, à la réalisation Marie Placé. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.